RCF.
Nous poursuivons cette semaine notre interview avec le père Benoît de Cinetti pour son ouvrage « La fraternité, sinon rien ». Et dans cette deuxième émission sur la fraternité, on va s'attarder sur l'origine de cette fraternité pour les chrétiens. Alors, choisir la fraternité, c'est aussi, vous le dites dans votre ouvrage, opérer un changement dans ce qui est prioritaire, dans ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on mise son existence sur autre chose que ce que nous propose la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
La Bible le montre de manière assez formidable. En fait, les premiers livres de l'Ancien Testament présentent toute une série, notamment le livre de la Genèse, toute une série de fratries. Voilà. Donc on a Abraham et Lot, on a Ismaël et Isaac, on a Jacob et Ésaü, on a Joseph et ses frères, on a même après Moïse et Aaron. Enfin, on voit bien tout, il y a toute une fratrie régulièrement qui est reprise et qui est présentée.
Fils prodigue.
Alors on a dans l'évangile après, bien sûr, les paraboles autour du fils prodigue et du fils aîné. Bref, le frère est une image qui revient beaucoup. Et dans la Genèse et dans l'Exode, dans la Genèse notamment, on voit bien que ces fratries, elles se disputent, elles se chamaillent et parfois elles s'entretuent. Évidemment, Caïn et Abel, c'est la première fratrie de l'humanité. Hein. Bon, c'est pas extrêmement glorieux. Et il y a tout un processus qui se met en place. Comme pour nous montrer, en fait, ce qu'est vraiment la fraternité. Encore une fois, elle se reçoit. C'est-à-dire, moi, être frère, c'est pas moi qui décide de l'être. Je le reçois par ma vie. Voilà. Je nais, je suis, et je m'aperçois qu'il y a autour de moi d'autres personnes qui sont comme moi nées et qui sont. Voilà, qui vivent. Et donc, c'est comme nous avons la même origine, eh bien, nous sommes donc frères. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'impose aux autres. C'est quelque chose qui m'est donné, comme la vie m'est donnée. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ma responsabilité, elle est de voir ce que je fais de ce lien. Soit ce lien soit je me laisse aller à trouver que ce lien est gênant et j'essaye de le supprimer ou d'être dans une relation de concurrence.
Pourquoi gênant?
Mais parce que c'est la relation au père, en fait, derrière. C'est comment est-ce que je vois qui est le père? Si j'imagine que le père n'est pas un homme juste, si j'imagine qu'il est caractériel, s'il me fait peur, le père, mais je vais être avec mes frères en situation de concurrence. Vous voyez, c'est la question de Caïn et Abel. Caïn et Abel, quel regard Caïn pose sur Dieu? Mais Caïn, il pose sur Dieu un regard, il craint que Dieu soit un peu injuste, quoi. Il est jaloux de son frère. Mais s'il est jaloux de son frère, c'est qu'il a idée que son père puisse lui préférer son frère. Et donc, en fait, la question pour moi comme chrétien, si vous voulez, c'est que dès lors que je dis l'autre est mon frère, ça m'oblige à réfléchir au regard que j'ai sur notre père commun, sur Dieu. Voilà. Quel regard j'ai sur Dieu? Voilà. Comment est-ce que j'essaye de découvrir Dieu? En fait, on pourrait dire, si vous voulez, que plus je comprends que je suis frère en humanité avec les autres, plus ça m'oblige, moi, à ouvrir mon cœur et mon intelligence à la question de Dieu. Qui est-il, ce père que nous avons en commun? Voilà. Et comment la manière dont je chemine vers une compréhension de Dieu va m'aider à être davantage le frère que je dois être pour les autres.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette question, on n'ose pas forcément se la poser? Peut-être de peur de trouver la réponse?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on se la pose moins parce que, en tout cas, dans un pays comme la France, qui est très sécularisé, parce que la question de Dieu se pose de moins en moins, en tout cas, de moins en moins clairement. Et elle se pose de moins en moins clairement dans le prisme chrétien. C'est-à-dire que la manière dont Dieu se révèle à travers le christianisme, est une manière très particulière qui est de plus en plus ignorée par nombre de nos contemporaines, nos concitoyens.
Très particulière parce qu'elle est celui de l'engagement?
Parce que Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Et précisément, c'est Jésus-Christ qui va être la clé pour m'aider à devenir frère. Voilà. Parce que Jésus est le fils prototypique, on va dire, par excellence. Voilà. Et donc, la manière dont il est fils m'invite, moi, à réfléchir à la manière dont je me reconnais fils ou fille de Dieu.
Alors, ce que vous dites fait écho à un des passages de votre ouvrage où vous évoquez l'appel du pape à être frère à tout prix. C'est ce qu'il fait quand il dit en mars 2020, donc c'est un moment où la France n'est pas encore confinée. En Italie, en revanche, ça a déjà démarré. Et le pape dit aux prêtres italiens, qui déjà ne peuvent plus célébrer la messe publiquement, de se rendre auprès des malades, et je cite, « quoi qu'il puisse en coûter à leur propre santé ». Alors nous aussi, les chrétiens, on a eu notre « quoi qu'il en coûte ». Finalement.
Ouais. Oui, absolument. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Ça, c'est une question personnelle à laquelle chacun est renvoyé. Je vous disais précisément que Jésus est celui qui nous apprend à être fils et donc à être frère. Comment? En donnant sa vie. Voilà. C'est-à-dire que celui qui veut marcher à ma suite, voilà, eh bien, qu'il prenne sa croix, quoi. Et en fait, c'est la découverte que l'exigence ultime de l'évangile, c'est est-ce que tu es prêt à tout donner? Et nous sommes, nous, souvent renvoyés à l'image du jeune homme riche, voilà, qui s'en va tout triste parce qu'il avait de grands biens, voilà. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Et donc à donner ta vie. Enfin, à ne pas avoir peur, à ne pas retenir. Tout donner, ça veut dire ne pas retenir. C'est d'abord ça. Nous, on dit tout donner, mais je vais pas mourir, Seigneur, ça va pas, non, j'ai envie de vivre. Mais c'est pas ça, il te dit pas est-ce que tu veux mourir. Il te dit est-ce que tu es prêt à ne pas tout retenir? Voilà. À ne pas retenir ta vie, à laisser ta vie s'écouler. Il y a quelque chose de très particulier, la vie, vous savez, quand on y réfléchit, la vie c'est un souffle, on dit « ma vie », mais la vie ne nous appartient pas, c'est comme dire « l'air que je respire », personne n'aurait l'idée de dire « mon air », c'est l'air, il est donné à tout le monde. La vie, c'est un souffle qui passe dans le monde et qui fait vivre la fourmi comme l'éléphant, le brin d'herbe, comme l'être humain. C'est-à-dire que la vie, c'est ce souffle dont on ne sait pas d'où il vient ni où il va, comme dit l'évangile, et que nous, chrétiens, nous identifions à Dieu, au souffle créateur. Donc, la vie, elle nous est donnée, elle nous remplit, elle nous pousse, mais l'idée même de dire ben, je vais retenir cette vie, je vais la retenir pour moi, ah, rien que pour moi, enfin c'est absurde, comme si on pouvait enfermer le vent. Et comment voulez-vous enfermer l'oxygène?
Oui, mais c'est ce qui se passe.
Mais bien sûr, c'est cette tentation qu'on a tous, mais que j'ai comme chacun de nous. C'est-à-dire qu'on a envie de retenir, parce que en même temps on est fasciné par d'abord on a peur de mourir. Tous, on n'a pas envie de mourir, on aime ce qu'on vit, même quand on a des épreuves lourdes, même les malades qui parfois vivent des souffrances terribles, même les gens qui parfois sont abandonnés et qui se disent j'ai plus qu'à me flinguer, mais la plupart, heureusement, ben non, parce que la vie est plus forte, quoi. Il y a quand même cette espèce de... Donc on a envie de vivre.
Mais est-ce qu'on a envie d'être frère? Est-ce qu'il faut un courage? Est-ce qu'il y a un courage de la fraternité?
Mais à la fois, on en a envie, quand on a le désir, on a tous le désir de s'aimer les uns les autres. C'est quand même bien plus cool que de se détester. Mais en même temps, c'est la question du courage, comme vous dites. C'est-à-dire que on a tous envie d'aimer. Mais quel moyen je prends pour aimer? On a tous envie de vivre. Mais quel moyen je prends pour vivre? Et donc, on a tous envie d'être frère, bien sûr. Alors, on dit on est frère, on va être dans des concerts, on se tient par l'épaule, on danse ensemble, on allume un briquet, ou son téléphone portable et tout ça. C'est formidable. Mais donc, on est frère, peace and love et tout ça. Mais en fait, dans la vie, dans le réel, c'est vachement dur d'être frère. Et c'est tellement dur que le pape nous le rappelait pour le confinement, comme vous le disiez à l'instant, que dans l'évangile, Jésus dit, en fait, la vraie fraternité, c'est est-ce que tu es prêt à donner ta vie?
Et alors, c'est ça que vous appelez la force transformatrice de l'évangile?
Ah ben oui,
c'est le sous-titre de votre
livre. C'est la révolution. Alors, quand on dit ça, vous avez les grands esprits, se sourire en disant, ouais, mais ça, c'est un curé, c'est un rêveur, c'est un naïf, c'est... Mais pas du tout. C'est le propre de la foi que de porter des rêves. Et ce qui construit l'humanité, ce sont des rêves qui se réalisent. C'est pas le rationalisme épuisant du « on n'y arrivera jamais, donc on va faire un minimum ». Non, voyons grand, parce qu'on est appelé au plus grand. Et donc la fraternité, c'est le programme de la révolution qui peut transformer l'humanité. Voilà. C'est si nous nous décidons les uns et les autres à convertir nos manières de vivre, c'est-à-dire à oser poser des actes et des paroles qui nous engagent, qui nous impliquent, qui nous dérangent, pour manifester notre désir d'aimer l'autre et de l'engager comme un frère, mais on bouleverse l'équilibre des choses.
Mais c'est une urgence.
Mais c'est une urgence parce que vous voyez que le monde marche cul par-dessus tête. C'est-à-dire que, alors ça n'a jamais été très formidable, mais alors là, si vous voulez, on atteint quand même des sommets. Et la question de l'écologie, par exemple, c'est quand même sidérant de voir que chaque été, il y a un peu plus de planètes qui brûlent et que là, ça arrive à nos portes. Enfin, cet été, il faisait 47 degrés au Maroc, 45 en Grèce et au Portugal et en Espagne. Je veux dire, et dans un an, on l'aura en France. Il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas en France. Et alors, on sera là en disant, ah ben c'est quand même pas de bol, mais vite, allons acheter des clims chez Darty, prenons l'avion pour aller en Scandinavie, pour avoir un peu de frais, etc. Enfin, c'est lunaire, si vous voulez. On voit les défis qui sont devant nous, on les a tout à fait identifiés, ils sont clairs et nets, et on est là, Et on se dit, ok, on va changer de chaîne parce qu'on va regarder quand même un truc un peu moins compliqué qui nous prendra moins la tête.
Enfin, des gens s'engagent quand même. Même oui, s'ils ne se sentent sûr. Peut-être pas frères d'un même père, à minima, ils se sentent frères d'une même planète.
En fait, il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Il y a beaucoup de gens à titre individuel qui s'engagent ou qui rentrent dans des associations. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent ça de manière très, très, très sérieuse. Ce qui est assez désespérant, c'est de voir comment collectivement ceux qui doivent être les fédérateurs de ces énergies, les États, mais aussi les églises, sont lentes, pusillanimes et quand même pas tout à fait là où il faudrait qu'elles soient, quoi.
Mais justement, à quel moment on passe du vivre ensemble, du citoyen, au frère chrétien, au frère en Christ?
Ben, je pense qu'il faut poser il faut poser des actes. Il faut poser des actes objectifs qui manifestent pour que ceux qui veulent vivre ainsi puissent le manifester dans leur mode de vie. Je pense que ça passe par, je me rappelle une famille de paroissiens qui me disait que, par exemple, lui, pour son travail, doit beaucoup voyager en avion et il n'a pas le choix, c'est une question professionnelle. Mais devant les problèmes qui se présentent en termes de climat, eh ben, en famille, avec des enfants qui sont des adolescents, donc c'est pas l'âge le plus simple, mais en même temps ils sont très responsabilisés, ils ont pris une décision, c'est qu'ils ne prendraient plus jamais l'avion pour des vacances familiales, point. Alors qu'ils auraient les moyens de le faire. Mais ça c'est une vraie décision, vous voyez.
Ça c'est être frère.
Mais oui, ça c'est être responsable de l'autre. En fait, la première question que Dieu pose à Caïn, après qu'il ait tué Abel, c'est « Où est ton frère ?» Et Caïn dit « Mais enfin, suis-je responsable de mon frère ?» Mais bien sûr, mon garçon, tu es responsable de ton frère. Évidemment qu'on est responsable. Quand quelqu'un tombe dans la rue et que je ne le ramasse pas, et alors après on vient dire, mais alors qu'est-ce que vous n'avez pas ramassé ce pauvre type dans la rue? Oh ben, est-ce que je suis responsable? Mais bien sûr, t'es responsable. Évidemment qu'on est responsable de son frère. Évidemment. Même si il sent mauvais, même s'il est désagréable, même s'il a pas, il coche pas les bonnes cases, évidemment qu'on est responsable. Et puis quoi encore?
Merci Père Benoît Tignetti, vous êtes l'auteur de La Fraternité Sinon Rien, la force transformatrice de l'Évangile aux éditions Salvator. Merci à vous.
Merci.